tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Résister. C'est l'essai de la rentrée 2024 qui s'impose en troisième place des meilleures ventes en librairie après « Ce que je cherche » de Jordan Bardella et « Mémoricide » de Philippe de Villiers. Résister, c'est le nouvel ouvrage de la journaliste du média indépendant Blast, Salomé Saké. Un an après « Sois jeune et tais-toi », ce deuxième essai paru le 16 octobre dernier aux éditions Payot résiste face à un récit et à un vocabulaire qui s'impose aujourd'hui de plus en plus dans le débat public. Celui de l'extrême droite. Résiste, prouve que tu existes. Une bataille qu'elle mène de front, aussi en Ardèche, sa terre d'origine, qu'elle a pu retrouver jeudi 5 décembre dernier grâce à l'invitation de l'Auberge de Beaufre pour une rencontre-conférence. Une belle occasion pour un média de proximité tel que RDB d'y assister et de vous rapporter sur les ondes la voix engagée de la journaliste. Comment s'informer aujourd'hui avec une extrême droitisation de la classe médiatique et politique ? Être journaliste veut-il forcément dire être apolitique ? Jouer la carte de la neutralité, est-ce vraiment possible ? Et quel rôle des médias locaux dans tout ça ? Réponse aujourd'hui avec Salomé Saké pour ce nouveau numéro de Circuit Court. Entre deux dédicaces et une ginger beer à la main, j'ai réussi à me glisser parmi la file d'attente pour lui demander, dans un premier temps, ce qui l'a motivé à s'essayer à résister contre l'extrême droite.
Ce qui m'a donné envie d'écrire « Résister », c'est clairement les élections législatives et c'est le constat des obstacles qui existaient à la diffusion de l'information et le fait qu'on est vraiment rentré dans une ère... On est en train d'entrer dans une ère de la post-vérité où des opinions sont présentées au même niveau que des faits. Et donc j'avais vraiment envie de rappeler les faits sur ce qu'était l'extrême droite parce que j'ai constaté qu'il y avait vraiment une banalisation, une dédiabolisation à l'œuvre que je trouve extrêmement préoccupante. Et j'avais envie de rappeler, bah, encore une fois, les conséquences potentielles que ça pouvait engendrer en me basant le plus possible sur des faits. C'est pour ça que ce livre, sa spécificité, c'est qu'il est très sourcé pour permettre aux gens qui me lisent et qui peut-être ne sont pas du tout d'accord avec moi d'aller voir quelles sont mes sources et de faire peut-être eux-mêmes la démarche de sourcer leur opinion et leur vision du monde. Mais revenons-en à un débat qui soit le plus construit possible et qui soit pas seulement sur de l'émotion, voire sur de la désinformation, hein, ce qui vraiment pose un très très gros problème aujourd'hui.
Tu travailles au Média Blast et ça n'empêche pas que même avec un livre sourcé factuel, on te met l'étiquette de journaliste militante et tu fais bien la distinction dans ton livre d'expliquer que tu es une journaliste engagée mais pas militante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence ?
Oui, alors même engagée, moi, c'est pas une étiquette que je me suis mise. C'est-à-dire que je pense pas que le militantisme ni l'engagement soient des tares. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est pas vraiment mon métier. Et moi, je suis dans aucune organisation, dans aucune association. Je n'ai évidemment aucune proximité avec des partis politiques. J'ai jamais été dans un parti politique. Donc je considère pas pour moi que ça, c'est un engagement parce que j'appelle pas à signer des pétitions, j'appelle pas à manifester. Pour moi, c'est plutôt ça, l'engagement. Donc moi, je considère juste que je traite les choses de la manière la plus juste possible, que je respecte la charte de Munich, qui est la charte du journalisme, que je recoupe mes informations, que je donne le droit à la contradiction, que je respecte en fait tout simplement la déontologie journalistique. Donc je vois pas pourquoi je serais plus engagée qu'une autre, en fait.
Mais pour autant, tu dis qu'il n'y a pas forcément du journalisme apolitique et que la neutralité journalistique dans laquelle, la notion qu'on apprend dans les écoles, c'est un leurre.
C'est ça que pose cette notion d'engagement, c'est que si je suis une journaliste engagée, d'accord, je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais par rapport à qui ? Par rapport aux journalistes qui seraient non engagés. Et moi, je considère pas être plus engagée qu'un journaliste qui est qualifié de neutre aujourd'hui. C'est pour ça que j'appelle à en finir avec cette histoire de la neutralité, parce que je pense que c'est vraiment à l'heure dans laquelle se sont fourvoyées beaucoup de personnes de ma profession à penser qu'on était au-dessus des masses, en fait, et qu'on était au-dessus de la société qu'on entend documenter. Ce que nous ne sommes pas, nous portons avec nous un vécu, une vision du monde, des valeurs, Être journaliste, c'est passer sa journée à faire des choix. On passe sa journée à choisir le sujet, le titre, les mots qu'on utilise, à qui on donne la parole, combien de temps, comment on en parle, quand est-ce qu'on en parle. Ça a aussi beaucoup d'importance. Et donc tout ça, ce sont des choix, et ce sont des choix qui ne sont pas guidés que par l'objectivité, qui je pense est l'objectivité absolue, est inatteignable en journalisme. Et donc, il ne faut pas oublier que l'étiquette militante, elle m'est collée avant tout par l'extrême droite, que j'entends combattre avec des mots, avec l'information, de manière totalement pacifiste, non violente. Et moi, mon arme, c'est l'information. C'est-à-dire, partageons-la au maximum. Et ça, visiblement aujourd'hui, c'est considéré comme du militantisme.
Justement, face à l'extrême droitisation de la classe médiatique et politique que tu dénonces vraiment dans ton livre Résister, tu as donné l'exemple lors de la rencontre là à Boffre de CNews, qui est la première chaîne d'info continue aujourd'hui, qui a été que l'ARCOM vraiment l'a interpellé hein, sur beaucoup de questions d'appel à la haine, de désinformation. Aujourd'hui, quelles sont nos clés pour reconnaître une bonne information, surtout quand on est en milieu rural?
Ça, c'est une très bonne question parce que je pense que pas assez de gens se la posent. Déjà, avant tout, c'est de garder des sources d'informations plurielles. À aucun moment, je pense qu'il ne faut se fier qu'à un seul média ou surtout pas à une seule personne. C'est de réussir à soi-même recouper un minimum les sources. Je pense que c'est aussi une question de temporalité, de ne pas s'informer tout le temps, n'importe comment, sur les réseaux. C'est peut-être de dédier un temps de sa journée en fait, à l'information ou de sa semaine et de prendre le temps de se dire « D'accord, là, je vais vraiment essayer de m'informer sur ce qui est en train de se passer dans le monde ou en fonction des thématiques qui m'intéressent. » Ensuite, c'est de voir quelles sont les sources des journalistes, quelle est la méthodologie des journalistes et quelle est leur cette approche de l'information, de voir aussi, je pense que c'est un des meilleurs indicateurs pour reconnaître un journalisme fiable, c'est un journalisme qui reconnaît des erreurs. Un journalisme qui ne fait pas d'erreurs, ça n'existe pas. On en fait tous à un moment, on est humain. Et le plus important, c'est comment est-ce qu'on réagit quand on fait ces erreurs. Et de le reconnaître publiquement, et ça fait mal, hein. En tant que journaliste, on n'a pas envie de reconnaître qu'on s'est trompé. Et je pense que de suivre des médias où les journalistes disent « Bah là, on s'est vraiment trompé, en fait. On a mal traité, ou on a mal interprété, ou on a mal compris cette information », c'est déjà vraiment un bon indicateur. Ensuite, il y a l'indicateur du pluralisme, évidemment. Médias qui donnent la parole vraiment qu'à un seul type de parole, qui a aucune contradiction, jamais, où il n'y a pas de débat, en fait, où tout le monde est toujours d'accord. Ça pose question. Nous, par exemple, à Blast, sur le pôle économique que je dirige, j'ai fait le choix de ne pas forcément interviewer beaucoup de libéraux. Par contre, j'interview des économistes hétérodoxes qui sont vraiment en désaccord entre eux. Donc, sur les questions écologiques, par exemple, moi, je n'organise aucun débat sur si le réchauffement climatique existe ou si le réchauffement climatique est grave ou dans quelle mesure il faut changer. Enfin, est-ce qu'il faudrait changer de système? Non, moi, je pars du postulat que c'est ça, la réalité. Et ensuite, là où il y a des désaccords, c'est sur comment on y fait face. Quels sont les moyens économiques qu'on peut mettre en place? Et il y a des gens qui sont vraiment pas du tout d'accord entre eux. Donc juste se dire qu'il y a la question du pluralisme, de reconnaître ses erreurs, quelle est la méthodologie, et un journalisme qui cite ses sources. Encore une fois, quelqu'un qui vous dit ça c'est tel chiffre sans citer la source du chiffre, c'est quelque chose qui doit interpeller.
Comme tu travailles pour un média alternatif Blast, j'aimerais te poser une question sur le rôle aussi que peuvent avoir une radio associative en milieu rural, par exemple. Je ne sais pas si tu as entendu, il y a une grosse mobilisation ces derniers mois parce que le plan de loi de finances voulait réduire le budget donc attribué aux radios associatives, qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique, voulait le réduire, une coupe budgétaire de 35%. Or, les radios associatives ont un rôle hyper important pour l'éducation aux médias. On fait des ateliers radio dans des écoles. On permet vraiment cet accès à la fabrique de l'information. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du rôle aussi des médias de proximité aujourd'hui, la presse régionale, quels sont leurs rôles aujourd'hui dans la fabrique de l'information?
Ils ont un rôle absolument fondamental, qui est qu'ils sont connectés à des territoires avec des enjeux bien spécifiques. Nous, en tant que médias nationaux, on traite évidemment, on essaie de traiter l'actualité qui se passe dans les régions, qui se passe dans différents territoires, mais on ne connaît pas tout, on ne peut pas traiter tout ce qui se passe, par exemple, dans un département comme l'Ardèche. Et c'est précisément à ça que servent les médias régionaux, en fait, et les médias locaux. Et c'est très très important de garder aussi cette connexion, parce que l'information, c'est bien sûr l'information nationale, mais c'est aussi l'information, ce qui se passe à côté de chez vous. Et c'est pour ça que dans le panel des médias que je conseillerais de suivre, il y a aussi les médias qui sont à côté de chez vous et qui parlent de ce qui se passe à votre échelle. Ça peut vous informer déjà sur ce que vous allez faire de votre week-end, sur les mobilisations en cours, sur ce que vous pourriez faire aussi pour changer les choses, et puis pour faire entendre votre voix en tant que citoyen, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur la structure des territoires, sur construction de tel ou tel établissement et ça va avoir un impact sur votre vie et vous pouvez peut-être y changer quelque chose.
On interviewe beaucoup d'associations locales, on fait le relais vraiment du lien social aussi qui émerge en milieu rural, notamment des associations, de la jeunesse qui font beaucoup d'initiatives aujourd'hui de résilience, qui réinventent des nouveaux espaces un peu de vie. On leur donne la parole. La jeunesse qui s'investit aussi en ruralité, c'est important pour toi. Je sais que tu as envie de plus en plus de venir en Ardèche, ta terre d'origine. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ?
Bah, clairement, il y a en plus une nécessité d'autant plus importante de s'informer sur des médias qui parlent de la ruralité que les grands médias n'en parlent que trop peu. On a vraiment une déconnexion du journalisme qui est pour beaucoup un journalisme parisien. C'est pas un mythe, c'est pas un cliché. La plupart des médias sont à Paris, les journalistes sont à Paris de facto, c'est mon cas, alors que c'est pas du tout mon envie.
Les campagnes sont sous-représentées. Oui.
Les campagnes sont sous-représentées, surtout mal connues. Moi, je connais par exemple l'Ardèche. Je pense que je connais, il y a plein d'autres campagnes qui n'ont pas les mêmes enjeux, que je ne connais pas. Et je vois bien qu'il y a vraiment une méconnaissance en fait, de ce qui se passe dans les territoires ruraux, qui alimente aussi une forme de défiance et de colère à l'égard des médias que je comprends. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de traiter de cette actualité rurale et de s'informer quand on vit en milieu rural sur ce qui se passe, à côté, encore une fois, à côté de chez nous. Donc moi, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de médias locaux. Et de manière générale, je pense qu'on a besoin de décentraliser l'information. On ne peut pas juste avoir tous les journalistes au même endroit dans le pays. Et d'avoir de plus en plus de médias locaux qui, je l'espère, seront peut-être rentables et arriveront à vraiment se consolider en fait à échelle locale, ça ne peut que faire du bien à la démocratie. Et on revient au rôle du journalisme. À quoi sert le journalisme ? Est-ce que les gens sont informés ? À quoi ça sert que les gens soient informés ? Est-ce qu'ils puissent agir ? Et un des endroits où on peut le plus agir, c'est précisément au niveau local.
Une dernière question un peu plus légère, toi qui es une journaliste passionnée mais qui a un travail assez aliénant, hein. D'ailleurs tu as fait une vidéo à Blast sur l'illusion aujourd'hui du métier journaliste, que c'est très très difficile aujourd'hui d'arriver à faire son métier dans des conditions de travail qui sont complètement respectables et socialement acceptables aussi. Est-ce qu'un jour tu aurais envie peut-être de sortir de Paris et de concilier une vie peut-être plus tranquille? Est-ce que tu penses qu'un jour c'est possible d'y arriver tout en conciliant un travail qui est d'utilité publique et qui permet d'inspirer aussi de nouvelles générations?
Bah, c'est mon grand enjeu aujourd'hui, c'est pas peut-être, j'espère, c'est il faut. Je veux absolument partir de Paris, ça va faire une dizaine d'années que j'y suis, j'en peux plus. J'ai vraiment envie de partir de la capitale. Le mode de vie ne me correspond pas totalement. Alors bien sûr, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir. Ça m'a permis de faire voilà, ce travail que j'adore, mais j'ai vraiment, je ressens un besoin très fort de partir.
Envie de retourner en Ardèche un peu ?
Ardèche, je sais pas, parce que ça reste quand même un territoire vraiment rural et j'ai besoin tout de même d'être, je pense, en ville ou en tout cas d'avoir une connexion, ne serait-ce qu'une connexion de
transport.
Transport, parce que je devrais toujours aller à Paris. En fait, je suis actuellement en prospective. Je profite de cette tournée autour du livre Résister pour visiter des villes que je connais pas, des petites villes aussi.
Dernièrement, Toulouse, ça t'a plu, je crois.
Oui, il y a eu Toulouse, il y a eu La Rochelle. J'essaie de voir. Non, mais j'essaie de voir en fait des petites villes et de voir mes critères, tout ça. Mais il y a clairement l'idée de ralentir. Je pense que j'ai besoin de ralentir. C'est aussi ce que je prône et ce serait bien que je le respecte. J'ai un peu de mal à le faire. Mais une ville comme Paris n'y encourage pas. Donc j'espère vraiment me retrouver peut-être un territoire qui serait un peu rural, mais à la bordure d'une grande ville. Je ne sais pas encore.
Est-ce que ça existe, le territoire idéal ? Je ne sais pas.
Je suis à la recherche du territoire idéal. N'hésitez pas à m'écrire si vous connaissez le bon territoire.
En tout cas, moi, j'aime beaucoup vivre en Ardèche pour une jeune et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, vraiment partir des villes pour essayer de construire vraiment un dynamisme culturel, local. On s'investit beaucoup. C'est parfois difficile avec des personnes âgées qui ont un certain conformisme. Des idées reçues aussi sur la jeunesse, comme tu décris si bien dans Sois jeune et tais-toi. Et juste un truc un peu plus musical, est-ce qu'il y a un chanteur, une chanteuse, une artiste engagée que tu aimes beaucoup en ce moment, qui t'inspire et qu'on terminera sur cette note musicale ?
Oh bah c'est un classique, mais je pense à Aude Sagazan, que je trouve absolument extraordinaire. Et j'adore ses prises de parole. Je pense qu'elle est très rafraîchissante et puis très modeste aussi. Et ça fait du bien, quelqu'un qui se prend pas au sérieux.
Je crois qu'elle a repris un titre que tu aimes beaucoup d'un artiste, David Bowie.
Alors elle a repris, j'avoue, le titre Modern Love que j'adore de tout mon cœur. C'est mon hymne. Et alors là, il y avait vraiment le mix entre mon titre préféré avec une de mes chanteuses préférées du moment. C'était le bonheur.
On part sur ça. Merci Salomé.
Catch a paper boy, but things don't really change. I'm still
Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.